Bien, bonsoir à tous. Nous allons commencer. Merci d'être là aussi nombreux. C'est dire sans doute que le thème de cette conférence est d'importance, puisqu'effectivement, nous allons essayer de vous apporter quelques lumières sur la sortie de crise. Voilà, comment la piloter, quelles mesures prendre. Alors, effectivement, c'est une question majeure. C'est peut-être même la question majeure aujourd'hui de politique économique. C'est une question à plusieurs centaines de milliards d'euros. C'est une question à plusieurs points de PIB, évidemment. Alors, les thèmes que nous allons aborder, évidemment, concernent les finances publiques, hein. Est-ce que redresser l'équilibre des finances publiques sans étouffer la reprise de la croissance, est un défi qu'on peut aujourd'hui relever? Il y a peu de doutes, effectivement, sur la nécessité de redresser les comptes publics, sous peine de finir étouffés sous une montagne de dettes. Je crois que, on n'est pas très loin, malheureusement, des seuils critiques, hein, si l'on en croit les économistes Carmen Reinhart et Kenneth Rogoff, qui viennent de sortir un ouvrage dont je vous recommande la lecture, qui s'appelle « Cette fois, c'est différent ». C'est une analyse de toutes les grandes crises passées et qui montre qu'effectivement, une fois qu'on atteint un niveau de dette publique proche de 80 à 90% du PIB, eh bien, il y a un impact significatif sur les sentiers de croissance. Et nous ne sommes pas très loin, malheureusement, de ces seuils. Alors, simplement, à quel rythme faut-il réduire les déficits? Est-ce qu'on ne va pas trop vite, trop fort? Est-ce qu'il vaut mieux, quand on veut réduire les déficits, plutôt privilégier la hausse des impôts? Est-ce qu'il vaut mieux plutôt essayer de réduire les dépenses, chercher à augmenter le potentiel de croissance, ou bien se dire que l'inflation fera bien le travail? Qu'est-ce qu'on peut espérer des solutions européennes? Voilà, il y a aussi énormément d'incertitudes, et peut-être davantage encore sur les effets des politiques monétaires, puisqu'on est rentré là sur ce terrain, sur des territoires totalement inconnus, même pas couverts par les manuels d'économie les plus communs. Qu'est-ce qu'il faut craindre comme impact sur l'activité de ces politiques monétaires? Est-ce qu'il faut avoir peur d'un emballement de l'inflation, de nouvelles bulles financières? Bref, comment va-t-on sortir de la pire crise qu'ait connue le monde depuis les années 30? Pour répondre à ces questions, nous avons la chance d'accueillir trois grands spécialistes de ces sujets. Olivier Garnier, qui est chef économiste du groupe Société Générale, qui est membre du Conseil d'analyse économique, qui a fréquenté les cabinets ministériels et qui a même été un des rares économistes français à pouvoir travailler à la Réserve fédérale américaine. Je dois excuser Jean Pisani-Ferry du think tank Bruegel, qui a dû rester au chevet de son papa souffrant à Paris. Nous avons à sa place Hubert Kempf, qui est vice-président de l'Association française de sciences économiques. Il est universitaire, mais en ce moment, il travaille à la Banque de France. Et puis Jacques Lecacheux, qui est, entre autres, directeur du département des études de l'Office français des conjonctures économiques, le célèbre OFCE. Alors, je vais commencer avec vous, Jacques Lecacheux, pour que vous nous expliquiez dans un premier temps, déjà, quel peut être l'impact des plans de redressement des finances publiques tels qu'ils sont configurés aujourd'hui en Europe en général et en France en particulier?
Oui, alors merci. Je vais d'abord peut-être faire un petit point sur la situation telle qu'on peut la voir en ce début novembre 2010, puisqu'après tout, la session s'appelle Piloter la sortie du tunnel. La première question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'elle est loin la sortie? Et je crois que à cette première question, la réponse est oui, probablement, la sortie est loin. C'est-à-dire qu'en fait, si on regarde les évolutions depuis la crise de 2008, on s'aperçoit que la chute de la production et du PIB dans tous les pays développés a été très importante. Ce n'est pas une crise mondiale, hein, contrairement à ce qu'on dit parfois, puisqu'il y a quand même quelques régions du monde qui n'en ont pratiquement pas souffert, notamment la Chine, mais aussi l'Afrique dans une très large mesure. Et donc, c'est plutôt une crise des pays développés, États-Unis, Europe, Japon, principalement. Et de cette crise-là, cette crise est la plus grave depuis la grande récession des années 30, ça tout le monde l'a dit, mais on est encore très loin aujourd'hui d'avoir retrouvé les niveaux de production et de PIB par tête qu'on avait à la veille de la crise. Donc ça, c'est un premier point. Et dans un certain nombre de pays, on est encore très, très en dessous. de ce qu'on avait atteint. Donc il y a eu une reprise à partir de la de 2009. Cette reprise, à partir de la fin de 2009, elle a permis évidemment de corriger une partie de la chute, mais seulement une petite partie. Donc on est, de ce point de vue-là, encore dans une situation très sensiblement déprimée. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que les perspectives ne sont pas très bonnes, et là-dessus je vais y revenir. Et troisième chose, c'est que pour l'instant, plutôt que de parler des risques d'inflation, j'aimerais quand même qu'on insiste davantage sur les risques de déflation, puisque que ce soit aux États-Unis ou dans une certaine mesure en Europe, c'est plutôt ça qui nous menace à court terme, à la fois parce que tous les agents privés sont ressortis de la crise terriblement endettés et donc sont tous dans un processus de réduction de leur endettement, et ça c'est bien connu depuis les années 30 et depuis Erwin Fischer, c'est un facteur de déflation extrêmement puissant, c'est ce que Fischer appelait la déflation par la dette, et c'est dans ce processus-là qu'on est et qu'on est encore dans tous les pays développés, notamment aux États-Unis et en Europe. Les reprises qu'on observe dans un certain nombre de pays comme l'Allemagne sont un petit peu en trompe-l'œil parce qu'elles sont complètement tirées par les exportations vers la Chine sur des secteurs tout à fait spécifiques. Et pour le reste, on est encore quand même très très loin d'une vraie reprise auto-entretenue. Donc ça c'est le premier point. Alors deuxième point dans ces conditions-là, comment les politiques monétaires, budgétaires pardon, peuvent-elles piloter, etc. Alors là-dessus, évidemment, tout le monde est bien conscient du fait qu'on ne peut pas laisser indéfiniment croître les taux d'endettement public. Il se trouve que les ratios d'endettement public ont été énormément gonflés par la crise financière, par la crise et par la manière dont on a géré la crise, c'est-à-dire à la fois, évidemment, les politiques budgétaires keynésiennes de relance, les stabilisateurs conjoncturels, mais aussi, il faut le rappeler, les injections massives de financement pour sauver les secteurs financiers et les banques dans un certain nombre de pays qui ont beaucoup grossi les stocks de dettes. Donc ça, c'est un point qui est tout à fait indéniable. Donc les taux d'endettement public aujourd'hui sont très élevés. J'ai rappelé tout à l'heure que les taux d'endettement privés eux-mêmes sont aussi très élevés, ce qui pose évidemment un problème. Et alors sur la question de quel type de stratégie en matière de politique budgétaire, le premier point sur lequel je voudrais juste dire un petit mot, c'est Reinhard Rogoff, c'est très bien, sauf que Reinhard Rogoff ne dit rien sur la causalité, hein, c'est-à-dire ils disent, on constate historiquement que dans toutes les situations où les dettes publiques ont été supérieures à 90% du PIB, alors il y a eu simultanément des problèmes de croissance, etc. On pourrait très bien penser que la causalité va dans l'autre sens, c'est-à-dire d'une croissance faible à des ratios d'endettement qui augmentent et non pas de ratios d'endettement qui handicapent la croissance. C'est quelque chose qui, à mon avis, mérite d'être discuté. Alors, ceci étant dit, il est vrai que de toute façon, au-delà de 80 ou 100%, ou quel que soit le niveau, je vous rappelle quand même qu'au Japon, l'endettement public est actuellement proche de 200% du PIB et que le Japon n'est pas ni en banqueroute, ni non plus d'ailleurs un exemple à suivre en termes de croissance. Donc, il faut relativiser un peu tout ça. Alors, dans ces conditions, la question de savoir si on doit ou non réduire les déficits budgétaires et lancer une stratégie de stabilisation des ratios d'endettement public ne se pose pas. La réponse, c'est oui. Et ensuite, la question, c'est à quel rythme et avec quelle modalité. Alors, à quel rythme? Je crois qu'il est clair aujourd'hui. Il y a 15 jours à peu près, le FMI a publié le dernier numéro du World Economic Outlook qui montre ça d'une façon très claire et qui tord le cou une bonne fois pour toutes à cette théorie tellement en vogue en Europe ces derniers mois, selon laquelle les politiques de consolidation budgétaire peuvent être expansionnistes. Hein, vous savez que c'est un truc très à la mode en Europe. Et le FMI montre bien, sur un échantillon de pays très large, sur un échantillon d'expérience extrêmement large aussi, que non. C'est-à-dire que les politiques de rigueur budgétaire engendrent de la récession toujours et partout, et que le contraire, ce sont des exceptions. Donc ça, c'est le premier point. Ça veut dire qu'on entre dans une période où, dans tous les pays d'Europe notamment, les politiques budgétaires vont devenir récessives tout en même temps. Certaines le sont déjà, d'autres vont le devenir à partir du milieu de 2011, du début de 2011, pardon. C'est le cas notamment de la France en particulier. Et dans ces conditions, ce à quoi on doit s'attendre, c'est dans le meilleur des cas, un ralentissement de la croissance en 2011, et dans le pire des cas, une récession. Donc la question, c'est probablement, à la première question, la réponse, c'est plutôt on va trop vite. Il faudrait, idéalement, annoncer une stratégie de consolidation budgétaire à moyen terme, mais, en quelque sorte, commencer par dégrader les finances publiques tout en s'engageant à les améliorer par la suite. Parce que là, ce qu'on risque d'avoir, c'est, au fond, le pire des configurations, c'est-à-dire à la fois une rechute de la croissance et, en même temps, une remontée des taux d'endettement, c'est-à-dire le contraire de ce qu'on cherche, parce que comme la croissance va être plus faible, les recettes publiques vont être plus faibles, etc., etc. Donc on est au fond dans le pire des scénarios possibles, c'est en tout cas comme ça que je vois les choses. Alors, dernier point, et puis je m'arrêterai là avant de passer la parole aux autres, c'est quel type de rigueur budgétaire, entre guillemets, c'est-à-dire vaut-il mieux réduire les dépenses ou vaut-il mieux augmenter les impôts? Là aussi, les études empiriques suggèrent qu'en général, il vaut mieux réduire les dépenses que d'augmenter les impôts. Bon, mais en général, les choses sont quand même un peu moins claires que sur le premier point. Dans le cas des pays européens et dans le cas de la France en particulier, je pense qu'il ne serait pas absurde d'avoir une stratégie qui marche sur deux jambes, c'est-à-dire, certes, il faut réduire certaines dépenses, et on a commencé à le faire, mais il faut sans doute aussi augmenter la fiscalité. Je vous rappelle que les taux de prélèvement obligatoire en France ont baissé considérablement depuis 4 ans. On est passé d'un taux de prélèvement obligatoire qui était autour de 44% à un taux qui est maintenant inférieur à 42%, donc 2 points de PIB en moins dans une période où le PIB lui-même s'est contracté. Donc ça veut dire que les prélèvements ont baissé nettement. Et donc il y a de la marge pour augmenter certains prélèvements. Simplement, et je terminerai là-dessus en disant, il ne faut pas augmenter n'importe quoi, n'importe comment. Il ne faut pas augmenter les prélèvements qui risquent de casser la demande ou qui risquent de casser la dynamique de l'investissement. Et donc, moi, mon diagnostic là-dessus, c'est oui, il faut augmenter aussi les prélèvements, mais il faut les augmenter en accompagnant ça d'une vraie réforme fiscale, de façon à piloter la sortie de crise dans la direction qu'on souhaite. Et la direction qu'on souhaite, ça c'est pour le moyen terme, c'est au fond... disons, la croissance décarbonisée ou décarbonée ou quelque chose comme ça. Donc, il faut essayer d'orienter dans cette direction-là. Voilà.
Merci beaucoup, Jacques Lecacheux. Merci parce que c'était à la fois simple, clair et rapide. Alors, on va maintenant passer au deuxième volet de ces politiques économiques de pilotage de sortie de crise, qui est l'aspect, alors là, encore plus complexe des politiques monétaires, puisque les banques centrales se sont aventurées sur des territoires inconnus. Alors, Olivier Garnier, je vais vous demander de nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit. Qu'est-ce que c'est que ces politiques non conventionnelles, ces politiques de quantitative easing? En quoi ça consiste? Qu'est-ce que c'est censé avoir comme effet? Et est-ce que c'est dangereux ou pas?
Merci Emmanuel. Alors effectivement, là Emmanuel, le Chypre vient de nous dire, là on entre un peu en territoire inconnu, c'est pas dans les manuels d'économie, donc je vais essayer un peu de vous guider dans la jungle monétaire, là vers laquelle nous amène Ben Bernanke aujourd'hui aux États-Unis. Alors juste déjà pour vous rappeler les ordres de grandeur, donc la Fed, là, il y a quelques jours, vient d'annoncer un programme d'achat de titres publics de l'ordre de 600 milliards de dollars, auquel il faut ajouter environ 300 milliards là, qui correspondent à des titres de mortgage qui arrivent à échéance. Donc 900 milliards, ça va faire à peu près sur les 8 mois qui viennent, de l'ordre de 80% à peu près, ça représente 80% des émissions du Trésor public américain au cours des 8 mois qui viennent. Donc vous voyez, c'est un montant très important et qui fait suite aussi à des achats qui avaient représenté à peu près 1700 milliards lors de la première vague de ce qu'on avait appelé dans notre jargon QE1. Après, maintenant, c'est QE2, donc la deuxième vague d'assouplissement quantitatif. Donc ce qui fait que le bilan de la Fed aujourd'hui représente quelque chose qui est de l'ordre de 2 000 milliards de dollars, alors qu'en régime normal, auparavant, il était plutôt aux alentours de 800 milliards, et donc il va passer à quelque chose qui sera au minimum, qui sera de l'ordre de entre 2005 et 3 000 milliards de dollars. Après, ça dépendra aussi de la durée de l'assouplissement quantitatif de la Fed. Alors par rapport à ça, bon, rapidement, il y a un peu quatre questions qui se posent. C'est pourquoi cette politique ? Deuxièmement, comment ça marche ? Troisièmement, quels effets on peut en attendre sur l'activité ? Et puis enfin, un peu quels sont les risques, et notamment du point de vue de l'inflation. Alors la question la plus facile, c'est pourquoi cette politique ? Pourquoi cette politique ? C'est tout simplement, bon, aujourd'hui, si on prend le cas de la Fed, le taux d'intérêt directeur de la Fed, il est quasiment à zéro. Donc quand le taux nominal est à zéro, là, vous le savez tous, on ne peut pas aller plus bas. Et en plus, les États-Unis donc, sont dans une situation où il y a une croissance économique. Alors aujourd'hui, il n'y a pas de double plongeon, là, pour prendre le terme à la mode, mais on a une croissance qui est autour de 2%. Donc avec 2% de croissance, si vous vous dites que le rythme de croissance potentiel de l'économie américaine, il est peut-être autour de 2,5%, ça veut dire que ce n'est pas suffisant pour réduire le chômage. Et l'économie américaine, surtout dans une économie où il n'y a pas vraiment de filets sociaux, les États-Unis ne peuvent pas rester durablement avec un taux de chômage à 10% de la population active. En même temps, il y a un taux d'inflation sous-jacente qui est aux alentours de 1%, alors que l'objectif de la Fed est plutôt autour de 2%. Donc avec la crainte aussi, si jamais notamment la conjoncture se dégradait à nouveau, là, les États-Unis pourraient se retrouver avec une inflation autour de zéro, voire une baisse des prix, donc une situation de déflation dont on sait qu'à ce moment-là, il est très difficile d'en sortir, puisque dans ce cas-là, même avec des taux d'intérêt nominaux zéro, plus les prix baissent, à ce moment-là, les taux d'intérêt réels, qui sont ceux qui importent d'un point de vue économique, tendent à augmenter au fur et à mesure que les prix baissent. Donc là, il y a un cercle vicieux qui se met en place. Donc face à cette situation, quelle est la... Normalement, quand vous prenez les manuels, là, le manuel keynésien, vous direz dans une situation un peu de trappe à liquidité, le bon outil, c'est plutôt la politique budgétaire, parce que la politique monétaire n'est pas très efficace dans une situation de ce type. Bon, ceci dit, aujourd'hui, aux États-Unis, il est peu envisageable de faire un nouveau stimulus budgétaire, non pas seulement parce que le déficit est déjà proche de 10% du PIB, parce que la dette publique est déjà élevée, mais de toute façon, les conditions politiques ne sont pas réunies pour cela. Vous avez vu que là, nous rentrons dans une phase avec un congrès à majorité républicaine, un président démocrate. Là, c'est un peu bloqué. Le seul débat qui est important d'ailleurs, qui va se poser dans les semaines qui viennent, c'est plutôt de savoir qu'est-ce que l'on fait des baisses d'impôts qui avaient été votées sous la présidence Bush et qui arrivent à expiration en fin d'année. C'est-à-dire que si le Congrès ne fait rien, là, il y a non pas seulement, il n'y a pas de stimulus, mais au contraire, même des hausses d'impôts qui représentent de l'ordre de 2 points de PIB. Donc le sujet, ça sera plutôt de voir est-ce qu'on reconduit ou pas ces baisses d'impôts, mais pour maintenir la neutralité de la politique. Donc un stimulus budgétaire, il n'en est pas du tout question. Donc c'est pour ça que la Fed se retrouve en première ligne et c'est pour ça qu'il y a eu la décision qui a été annoncée la semaine dernière. Donc ça, c'est un peu les raisons. Alors maintenant, comment ça marche ? Alors c'est là où on rentre dans le sujet un peu plus compliqué. Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'en politique monétaire, en théorie, il y a un peu trois paramètres, il y a un peu trois leviers que peut activer une banque centrale. Le premier, qui est le plus classique, qui est celui qu'elle utilise en temps normal, c'est son taux d'intérêt directeur, c'est-à-dire le taux d'intérêt auquel les banques se refinancent auprès de la banque centrale, ou le taux d'intérêt sur le marché interbancaire. Le deuxième élément, c'est la taille de son bilan, qu'on appelle aussi dans les manuels un peu la base monétaire, mais qui, en temps normal, les deux premiers paramètres que je viens d'évoquer sont liés, parce que si vous êtes dans une situation où la politique monétaire est définie par le taux d'intérêt, à ce moment-là, la taille du bilan de la banque centrale devient endogène. C'est la demande de réserve par les banques commerciales qui détermine ensuite la Fed va fournir des réserves de manière à assurer un taux d'intérêt stable au niveau qu'elle s'est fixé. Donc, en temps normal, la taille du bilan de la Fed n'est pas un paramètre de politique économique. Et puis, le troisième levier, c'est la composition de son actif. Alors, là encore, en temps normal, la Fed ne détient à son actif que des bons du Trésor à court terme. Ceci dit, lorsque l'on est dans une situation comme aujourd'hui où les taux d'intérêt sont proches de zéro, vous voyez que les bons du trésor à court terme et la monnaie, quand les taux d'intérêt sont à zéro, c'est quasiment parfaitement substituable. Donc c'est pour ça que les politiques qui influencent la composition de l'actif peuvent avoir de l'importance, parce que si la Fed se met à acheter des titres du trésor à long terme, voire même au Japon, par exemple, la Banque centrale envisage d'acheter des actions, où elle peut acheter aussi, comme aux États-Unis, la Fed a acheté des MBS, donc des titrisations sur les mortgages. Vous voyez, là, on achète quelque chose de très différent, mais ce qui n'est pas fait dans une situation normale. Alors, pourquoi aujourd'hui on n'est pas justement dans une situation normale et on parle de ces nouvelles politiques non conventionnelles? C'est que justement, d'abord, lorsque les taux d'intérêt sont à zéro, tout à l'heure j'ai dit la taille du bilan en temps normal, elle est liée aux objectifs qu'on s'est fixés sur les taux d'intérêt. En revanche, une fois que les taux d'intérêt sont au plancher zéro, là, vous pouvez augmenter très fortement la taille de votre bilan sans que les taux d'intérêt baissent. Les taux d'intérêt n'iront pas plus bas. La seule chose qui va se passer, c'est que les banques vont accumuler des réserves qu'on appelle un peu réserves excédentaires, mais qui restent donc en dépôt, en quelque sorte, auprès de la Banque centrale, mais sans que ça fasse une pression sur les taux d'intérêt, et sans non plus que ce qu'on appelle dans les manuels le multiplicateur monétaire se mette en route. Donc là, les injections en quelque sorte de liquidités par les banques centrales ne se traduisent pas par du crédit supplémentaire. Alors, donc c'est pour ça qu'en termes de politique non conventionnelle, à ce moment-là, en toute rigueur, il faut bien distinguer deux types de politiques. Il y a une première politique qui est purement la politique quantitative, qui vise à augmenter la taille du bilan de la Banque centrale. C'est un peu ce que la Banque du Japon avait fait il y a quelques années. Elle se fixait des objectifs, en quelque sorte, sur la taille de son passif, sans regarder trop ce qui se passait du côté de l'actif. Ce n'était pas le point important. Donc là, c'était plutôt l'objectif premier étant d'injecter des liquidités. On voit bien que ce type de politique n'est pas très efficace, puisque dans une situation où, de toute façon, les banques, notamment pour des problèmes de mauvaise créance, d'insuffisance de capital, ne peuvent pas ou ne veulent pas prêter, dans ce cas-là, ce n'est pas en injectant des liquidités supplémentaires qu'on a une grosse influence sur l'économie. Donc le deuxième élément en termes de politique non conventionnelle, et c'est aussi ce que met en place la Fed aujourd'hui, c'est d'intervenir non pas seulement sur la taille de son bilan, mais sur la composition de son bilan, et donc notamment la composition de son actif, en partant du principe, comme je l'ai dit, qu'aujourd'hui, les titres à court terme, finalement, sont complètement substituables à de la monnaie. En revanche, il y a d'autres actifs qui ne sont pas substituables à de la monnaie, et donc, en intervenant, en achetant ces actifs-là, on peut avoir une certaine traction sur les prix des actifs, et donc, éventuellement, sur l'activité. Alors, par deux types de canaux, le premier canal, ça peut être si vous achetez, par exemple, des titres qui sont devenus, pour une raison liée au marché, très peu liquides en situation de crise. Dans ce cas-là, si la Fed se met à acheter ces titres-là, vous pouvez avoir un impact sur les prix de marché qui, à un moment, s'il n'y a plus aucun acheteur sur le marché, c'est aussi, d'une certaine manière, ce que fait la BCE aujourd'hui en achetant des titres irlandais ou des titres portugais. Là, il y a un problème, il n'y a plus d'acheteurs en face. Et donc, on peut avoir, sans faire des gros volumes, on voit que la BCE n'achète pas des gros volumes semaine après semaine, mais elle peut avoir un impact important sur les taux sur ses emprunts, tout simplement parce qu'il n'y a pas du tout de liquidité. Donc des petits volumes peuvent avoir un gros impact, mais quand la BCE fait cela, elle le fait en stérilisant ses achats, c'est-à-dire sans augmenter la taille de son bilan. Donc elle fait d'autres opérations en principe. Alors bon, je ne rentrerai pas dans le détail, c'est un peu plus compliqué dans le cas présent, mais elle le fait, en tout cas son discours c'est de dire on le fait en stérilisant. En revanche, dans le cas de la Fed, les achats de titres à long terme que s'apprête à faire la Fed, par exemple d'obligations du trésor américain à 7 ou 10 ans, là elle ne va pas les stériliser, c'est-à-dire que la taille de son bilan ne va pas, va augmenter en même temps, avec l'idée que c'est plus efficace de faire ça. C'est un peu le même type d'opération. Les politiques non conventionnelles, vous voyez, ça paraît quelque chose de nouveau, mais par exemple, les banques centrales interviennent depuis longtemps sur les marchés d'échange, font des interventions sur les marchés d'échange. On pourrait dire ça, c'est aussi une politique quantitative non conventionnelle. Là, au lieu d'acheter des titres du trésor à long terme, la banque centrale achète des actifs étrangers, qui sont aussi d'ailleurs des actifs non substituts à la monnaie, donc c'est pour ça que ça a un impact. Mais on sait aussi que ces interventions sur les marchés d'échange sont plus efficaces lorsque vous ne stérilisez pas, plutôt que lorsque vous stérilisez. Donc là, c'est exactement le même principe. Et dans le cas du marché du des titres publics américains, alors là, il n'y a pas du tout, c'est un marché qui a des plus liquides du monde, donc là, il n'y a pas du tout un problème de liquidité. Ce sur quoi joue plutôt la Fed, c'est de dire, là, c'est de jouer sur des phénomènes de portefeuille. C'est-à-dire, si tout d'un coup, il y a un très gros acheteur de titres sur, par exemple, sur le 10 ans américain, dans ce cas-là, ça tend plutôt à faire baisser les taux à 10 ans. Donc les gens qui détenaient les obligations du Trésor à 10 ans pour avoir un certain rendement, ils vont devoir aller d'ailleurs éventuellement sur d'autres types d'actifs. C'est pour ça aussi qu'en faisant ça, vous allez faire monter les prix des actions et éventuellement aussi vous allez faire baisser les dollars puisque le prix, les actifs étrangers deviennent à ce moment-là plus attractifs en termes relatifs par rapport aux actifs américains. Donc c'est par ces effets de portefeuille que la politique dite quantitative peut avoir des effets. Alors quand on, sur la base, alors on pourrait dire que ces politiques-là c'est assez nouveau, donc on a du mal à estimer l'impact que ça peut avoir sur les prix des actifs. Ceci dit, j'ai dit tout à l'heure, la Fed a fait une première vague d'achat de titres il y a environ 18 mois, et donc il y a eu un certain nombre d'estimations qui ont été faites, notamment par la Fed, sur les effets qu'on peut en attendre. Pour vous donner des ordres de grandeur, en gros, les premières estimations qui ont été faites, c'est que pour un montant d'achat à peu près de 1000 milliards de dollars de titres à long terme, ce que l'on obtient, alors c'est des ordres de grandeur avec des fourchettes larges, mais c'est plutôt une baisse de 50 points de base des taux réels à long terme, une hausse des marchés actions d'environ 10% et une baisse du taux de change effectif de dollars, c'est-à-dire le taux de change du dollar contre toute monnaie, d'environ 5%. Bon, après, c'est à plus ou moins quelque chose. Et d'ailleurs, ce qui est assez remarquable de noter, c'est qu'en gros, ces variations que l'on a là, qui sortent un peu ces estimations-là, c'est à peu près aussi les ordres de grandeur que l'on a observés depuis la fin août 2010. Pourquoi fin août 2010? Fin août 2010, c'était au moment où Ben Bernanke, lors d'une réunion de la Fed du Kansas à Jackson Hole, dans le Wyoming, a fait un discours qui a été interprété comme laissant penser au marché qu'il allait avoir une deuxième vague d'assouplissement quantitatif. Donc finalement, le marché s'est mis à anticiper ces achats. Ce qui fait d'ailleurs que lorsque la Fed a fait l'annonce la semaine dernière, il ne s'est pas passé grand-chose sur les marchés parce que c'était déjà largement anticipé. Mais donc, ça vous donne un peu cet ordre de grandeur-là. Donc voilà un peu les canaux par lesquels passe ce type de politique.
Alors, Olivier, il y a un demi-point d'impact de taux réel, des actions, mais sur la croissance,
c'est là où j'allais.
D'accord.
C'est là où j'allais, ça allait être un peu le troisième point. J'ai dit quels effets en attendre sur l'activité. Alors, si on rentre ça, ce type d'effet sur les taux d'intérêt, les prix des actifs, le taux de change, etc., dans les modèles macro-américains, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient un effet sur le PIB américain qui est de l'ordre, un supplément de PIB sur le niveau du PIB à 12-18 mois, d'environ un demi-point. Alors, on pourrait se dire un demi-point, effectivement, par rapport aux montants colossaux en jeu, c'est peut-être pas grand-chose. Alors, c'est vrai que dans le contexte américain actuel, on pourrait se dire c'est mieux que rien. Mais c'est vrai que ce n'est pas énorme, ça fait, sur le chômage, ça veut dire une baisse de seulement un quart de point du taux de chômage, donc vous voyez, ce n'est pas gigantesque, et en plus, c'est peut-être aussi ces estimations-là qui sont tirées un peu des modèles standards, c'est peut-être un majorant, parce qu'aujourd'hui, le canal des taux longs, il est sans doute un peu plombé, parce que, c'est pas parce que les taux baissent que les ménages américains vont acheter plus d'immobilier, qu'il y aura plus de construction, parce qu'on sait que là, il y a déjà un excédent d'offres sur le marché immobilier américain. Les entreprises ont beaucoup de cash, donc ne sont pas contraintes financièrement. Donc ça, c'est sur l'aspect taux d'intérêt. Sur l'aspect effet de la hausse du prix des actions, c'est-à-dire d'essayer d'obtenir un effet de richesse, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'un effet de richesse, pour qu'il soutienne durablement la demande, il faut que la hausse du prix des actifs corresponde à une augmentation des revenus futurs. Si jamais il n'y a pas d'augmentation des revenus futurs, on est dans le cas d'une bulle, c'est un peu ce qu'on a vu sur l'immobilier, et dans ce cas-là, on peut peut-être avoir un effet temporaire, mais ce n'est pas ça qui soutiendra la demande. Et enfin, sur l'aspect dollar, là, on a vu Alors, effectivement, c'est un canal qui est important, mais qui a déclenché le débat ces dernières semaines sur ce qu'on a appelé un peu la guerre des monnaies, parce que dans ce cas-là, tout dépend aussi, l'impact de ce canal-là dépend de la réaction des autres économies. Est-ce que les autres économies laissent ou non leurs devises s'apprécier? Alors, vu des Américains, ça peut peut-être être vu comme quelque chose un peu gagnant-gagnant, parce que vu des Américains, ils se disent de deux choses l'une, soit le reste du monde laisse leur devise s'apprécier, donc là, dans ce cas-là, le dollar baissera, ou alors, s'ils ne veulent pas que leur devise s'apprécie, dans ce cas-là, il faudra qu'ils mènent eux aussi une politique monétaire très accommodante, c'est-à-dire si on leur dit, mais est-ce que ça ne va pas gêner, par exemple, la BCE, ils auraient dit, la BCE n'a qu'à faire comme nous. Donc, dans ce cas-là, ce qui soutiendrait aussi, au niveau mondial, par le même type de politique. En réalité, c'est plus compliqué parce qu'on voit aussi qu'il y a des pays qui interviennent sur le change, il y a des contrôles de capitaux, donc qui peuvent limiter aussi les effets de cette politique.
Merci beaucoup, Olivier Garnier. Alors, si j'additionne un petit peu ce que vous nous avez dit tous les deux, on voit des politiques monétaires... Oui, vous pouvez, merci. Oui, donc on voit des politiques monétaires qui se dépensent énormément, mais pour des résultats qui paraissent quand même relativement mitigés et faibles, plus des politiques budgétaires qui ont plutôt des effets restrictifs que des effets stimulants. Donc, moi, ce que j'ai envie de vous demander, Hubert Kem, c'est est-ce qu'on n'est pas plus près de la prochaine crise que de la sortie de crise, que d'une nouvelle phase de croissance ?
Merci de m'interroger de cette façon-là. Je précise, avant toute chose, que les opinions que je vais pouvoir exprimer ne reflètent pas nécessairement celles de mon employeur actuel.
La Banque de France, donc.
La Banque de France.
Nous sommes rassurés.
C'est surtout elle qui peut l'être. Donc, effectivement, je m'interroge, en particulier à écouter les deux intervenants précédents, si... la bonne question ne consiste pas à se demander comment piloter l'entrée dans la crise. Ce que vous pouvez peut-être percevoir comme une assez mauvaise nouvelle. Il faut bien voir que la crise qui s'est enclenchée en 2007 pose deux énigmes, selon moi. La première, c'est la stabilité des changes. Nous avons une crise financière absolument majeure, des banqueroutes généralisées, enfin non, justement, pas généralisées, mais en tout cas régionalisées sur un point, effectivement, un acteur important de la finance, normalement, dans toute économie bien considérée, celle que les professeurs étudient, cela déclenche des ventes paniques et du coup des retraits de capitaux et donc une crise de change. Or là, pas de crise de change. La deuxième énigme que nous pose 2010, 2009, c'est la stabilité de l'inflation. Ça, c'est aussi très étonnant parce que vous avez bien senti à l'exposé de M. Garnier à quel point la politique monétaire avait été ébouriffante. On dit, parce qu'on est gentil, parce qu'on est poli dans ce monde-là, un assouplissement quantitatif ou des politiques non orthodoxes. Tout économiste devrait dire des politiques complètement folles, des accroissements de masse monétaire, de base monétaire, comme on n'en a jamais vu. Et là, pas d'inflation. Il y a donc deux énigmes qui sont devant nous et dont on commence à sentir qu'elles sont en train d'être levées. Vous avez mentionné la guerre des monnaies. Il va se passer quelque chose sur le système d'échange. L'inflation reste stable et même extrêmement basse, c'est clairement 1%, et c'est pour ça que l'on a une crainte actuelle de déflation, mais des signes précurseurs, hausse des taux des prix des matières premières, nous laissent à penser que tout cela ne peut pas durer plus longtemps. Et du coup, c'est ce qui m'amène à penser, mais je ne suis évidemment pas le seul, et vous l'avez senti dans la tonalité des interventions précédentes, que cela m'amène à penser qu'il y a quelques sources d'inquiétude à avoir sur le futur, et du coup peut-être faut-il sans verser dans la panique, préparer les bonnes conditions pour les prochaines turbulences, voire les prochains trous d'air. Donc, comment, d'une certaine façon, attacher sa ceinture ? La difficulté est rendue, devant laquelle nous nous trouvons, est rendue d'autant plus aiguë qu'il y a un élément qu'il faut bien prendre en compte. Cette crise de 2007 n'est pas seulement spectaculaire par son ampleur, par sa généralité et par sa soudaineté. Elle est aussi spectaculaire ou singulière par son origine. C'est le déclencheur est une crise financière qui, normalement d'ailleurs, aurait dû être contenue dans les limites de la finance. Mais il se trouvait, pour des raisons qu'il est longue, sur lesquelles il est un petit peu trop long d'élaborer, il s'est trouvé qu'elle s'est généralisée en crise réelle. Et du coup, c'est une crise financière, ou c'est une crise réelle nourrie par des facteurs financiers. Et là, on sait, l'économiste est assez sûr de lui, il suffit d'ailleurs qu'il reprenne, et vous n'apprécierez pas le précédent, la Grande Dépression des années 30, nous savons que toute crise où les données financières, les institutions financières sont durablement et sévèrement mises à mal, sont des crises longues et coûteuses. Ça n'est pas juste un bas de cycle un petit peu profond, c'est plus que ça. Et du coup, nous sommes devant une situation, si nous devons faire un diagnostic macroéconomique de la situation, je vais aller assez vite, je crois que nous avons deux causes d'inquiétude. La première série de causes, ce sont des causes que je dirais structurelles. Nous avons l'affaiblissement de la tendance longue de croissance, nous avons de nouvelles causes de volatilité dues à la dégradation de l'organisation financière de nos économies, et du coup nous avons des montées de protectionnisme qui pour le moment ont été contenues, mais dont on sent bien qu'en fait ils n'ont été contenus que directement par le biais du contrôle des droits de douane, mais ils ne l'ont pas été contenus indirectement dans la mesure où la gestion politique des taux de change par l'ensemble des pays d'une économie mondialisée, au premier rang desquels il faut nommer la Chine, s'apparente à du protectionnisme de fait. Mais il y a une deuxième source de raison à la crise, à sa dureté, à sa spécificité et à sa longueur, et c'est là où le responsable de politique économique peut s'inquiéter. Elle vient du fait que la crise précédente a été en partie nourrie par des mesures de politique économique que certains, et je dois dire que je pourrais me rallier à leur point de vue, estiment avoir été des erreurs. La crise dans laquelle nous sommes, vous n'y êtes peut-être pas sensible, suit une période que les macroéconomistes ont étudiée avec beaucoup d'étonnement et qu'ils ont qualifié de grande modération. C'est la période de grande modération qui, grosso modo, va, mettons, du début des années 90 à 2007, où l'on s'aperçoit une moindre variation cyclique et des taux d'inflation beaucoup plus faibles qu'auparavant. Et les responsables de politique monétaire, en particulier, s'en sont, mais pas seulement, budgétaires également, s'en sont enorgueillis, du coup baissant un peu la garde. Et ils n'ont pas voulu voir à quel point ils nourrissaient la bulle financière qui s'est traduite en 2007, d'abord par la crise des subprimes, puis en fait, ensuite en 2008, par la crise généralisée. Les politiques monétaires ont, les responsables des politiques monétaires ont eu l'impression qu'ils avaient trouvé une sorte de pierre philosophale qui consistait à ancrer l'inflation par différents dispositifs extrêmement intelligents et sur lesquels on ne peut que les complimenter. Mais ils n'ont pas vu ainsi qu'ils réduisaient l'appréciation du risque par l'ensemble des acteurs financiers. Et c'est ainsi qu'ils ont nourri la bulle. De ce point de vue-là, nous pouvons être inquiets puisque nous voyons peut-être que les mêmes causes pourraient produire les mêmes effets. Donc, voilà ce qui m'amène, ces deux ordres de causes différentes, m'amène à être inquiet. D'une certaine façon, ne prenez pas le terme trop au sérieux, ne vous catastrophez pas, ne partez pas vous enterrer dans une caverne. C'est le métier des économistes d'être inquiets. C'est leur raison d'être. Et d'une certaine façon, ils doivent être inquiets deux fois plus que vous, peut-être pour deux fois plus que les acteurs économiques, que vous et moi, dans notre activité économique, de façon à essayer de limiter la casse. Donc, quand je parle d'inquiétude, pondérez mon propos, mais vous vous intéressez à l'économie puisque vous êtes là, je vous en félicite, je crois que c'est important, mais je crois du coup qu'il faut être bien conscient que nous sommes devant la crise. Je ne suis pas un prévisionniste, Jacques en témoignera, je ne suis pas spécialiste de cela, je ne suis pas cap et je ne suis pas non plus devin. Et je n'ai aucune appétence pour l'ésotérisme. Donc je ne suis pas capable de vous dire quel se produira et quand. Ce que je crois que, en toute honnêteté, je peux vous dire, c'est qu'il y a tous les facteurs actuels pour que nous soyons devant la crise. Et du coup, nous devons nous y préparer, nous devons modifier nos dispositifs, adapter nos économies, de façon à aborder la phase de turbulence qui va, selon moi, devant laquelle nous sommes, de façon à la gérer au mieux.
Merci beaucoup, Hubert Kempf, malgré vos précautions. Oui, merci. Malgré vos précautions pour ménager nos nerfs, on a bien compris que vous étiez quand même très inquiet. Moi, j'ai une question à vous poser à tous les trois.